Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Daniel, la construction européenne est jalonnée de traités dont certains sont méconnus. Quel est le traité fondateur de la communauté ?
Alors, le premier des traités européens est signé à Paris en avril 1951, moins de 6 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il marque donc le début de la construction européenne, cette, j'ouvre les guillemets, première inouïe, comme la désigne Elie Barnaby, grand connaisseur de l'histoire de l'Europe. Traité fondateur, le traité de Paris crée la communauté du charbon et de l'acier, la CECA. Si le sigle est connu, les objectifs, le fonctionnement et le bilan sont largement ignorés aujourd'hui du grand public.
Qui en est à l'origine ?
Alors, le traité de la CECA trouve son origine dans une initiative française qui, 5 ans après la fin de la guerre, propose une solution au problème allemand de la France, à savoir comment faire pour que l'Allemagne, l'ennemi séculaire, ne constitue plus jamais une menace pour la France. La réponse donnée au sortir de la guerre consiste en une politique de fermeté dont l'efficacité s'avère assez vite problématique. Par ailleurs, l'évolution géopolitique en Europe, avec le début de la guerre froide et bientôt la division de l'Allemagne en deux, impose d'abandonner la fermeté et d'opter pour un rapprochement. C'est ce qu'on appelle la politique de la main tendue à l'Allemagne, qu'incarnent deux personnalités françaises, Jean Monnet et Robert Schuman. Le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman, dans la déclaration qui porte son nom, délivre un plan de réconciliation conçu par Jean Monnet et ses collaborateurs, un plan accepté par le gouvernement allemand. Il s'agit d'une proposition de paix reposant sur une solidarité de fait, la mise en commun de la production de charbon et d'acier. Le projet est économique, au travers d'un secteur essentiel pour la reconstruction. Il est symbolique, puisqu'il concerne des productions de guerre, et bien évidemment politique, car outre le message, il permet d'effacer la pomme de discorde franco-allemande que représentaient les prétentions françaises sur les régions allemandes de la Ruhr et de la Saar.
Quelle réception le plan reçoit-il ?
En Allemagne, l'acceptation du chancelier Adenauer est immédiate, avec appui de la CDU, son parti, et du Parti libéral, ainsi que de la majorité des industriels et même des syndicats allemands. Les seules réticences viennent des socialistes allemands au nom de l'unité allemande. L'opinion, elle, est favorable. En France, les réactions sont virulentes chez les communistes et les gaullistes, et les milieux industriels manifestent quelques réticences. Mais l'opinion est favorable. Dans le reste de l'Europe, si le Royaume-Uni, bien que pays charbonnier et sidérurgiste, reste à l'écart, 4 pays déclarent leur intérêt. Les 3 pays du Benelux, Belgique, Néerlandes et Luxembourg, et l'Italie. Les négociations qui s'engagent dès juin 1950 à Paris se font donc à 6. Elles sont bouclées en 8 mois et le traité est signé le 18 avril 1951 pour une durée de 50 ans.
Alors, qu'y a-t-il dans le traité ?
Alors, comme le déclare Jacques Delors, il y a tout dans le traité CECA. Les missions assignées à la CECA sont l'expansion économique, le développement de l'emploi et l'élévation du niveau de vie dans les États membres. Les objectifs sont multiples, parmi lesquels veiller à l'approvisionnement régulier du marché commun en charbon et en acier, assurer à tous les utilisateurs du marché commun un égal accès aux sources de production, veiller à l'établissement de prix bas, veiller au maintien des conditions incitant les entreprises à développer, à améliorer leur potentiel de production, promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre, promouvoir le développement des échanges internationaux, promouvoir l'expansion régulière et la modernisation de la production. Le fonctionnement repose sur 4 principes. Premier principe, la liberté de circulation des produits et le libre accès aux sources de production. Deuxième principe, le respect des règles de concurrence et de transparence des prix. Troisième principe, la surveillance permanente du marché pour éviter des dysfonctionnements. Enfin, le soutien à la modernisation du secteur et à la reconversion.
Et du point de vue de la construction institutionnelle ?
Alors, le traité a mis en place ce que Delors a appelé un carré institutionnel. Une haute autorité de 9 membres, désignée pour 6 ans, avec renouvellement par tiers tous les 2 ans, indépendante et dont les décisions sont obligatoires. un conseil spécial des ministres, 6 représentants des pays membres avec présidence trimestrielle tournante et consultée par la haute autorité, une assemblée commune avec des pouvoirs très limités, des membres désignés par les États, une faible influence sur la haute autorité, aucune sur le conseil, et enfin une cour de justice. Dans ce carré institutionnel, un binôme et un débat politique immédiat, le rapport entre la haute autorité à vocation supranationale, au-dessus des États, et le Conseil représentant ces États.
Peut-on dresser un bilan de la CECA ?
Alors, d'un point de vue économique, un résultat de production contrasté entre charbon et acier, une intervention très limitée sur les structures de production, pas de contrôle véritable des prix en raison des réticences des pays attachés à la liberté des prix de vente, mais un fort développement des échanges entre membres. Au total, plutôt un succès économique. D'un point de vue social, des avancées notables en termes de dialogue social, d'amélioration des conditions de vie et de travail, notamment le logement, la sécurité et la santé au travail, de réadaptation des travailleurs et de reconversion des bassins d'emploi. Alors, d'un point de vue politique, la CECA joue un rôle de laboratoire en termes d'informations statistiques et de gestion financière et constitue une matrice en termes d'édifices institutionnels et de gouvernance.